Et c'est l'heure de jeter un œil sur les marchés américains avec Aude Kersulec en direct du siège d'Euronext et John Plassard, notre spécialiste en investissement chez Mirabeau. Aude, on commence avec vous. Bonjour. Quelle est l'orientation, ce début de séance un petit peu particulière, on verra pourquoi, sur les marchés américains?
Oui, ouverture à la hausse pour le moment, on y croit. Plus 0,19% pour le S&P 500, 5030 points. Plus 0,47% même pour le Dow Jones, 37 931 points. Et plus 0,02% le Nasdaq qui est quasiment stable, 15 686 points. C'est vrai qu'on y croit de nouveau à Wall Street après 4 séances de baisse. Et pourtant, on y avait quand même cru ces derniers jours aussi. Et ça s'était mal fini, même si hier la baisse a été moins importante qu'au début de semaine. On a seulement baissé de 0,2%, mais on se rend compte quand même que la tech continue d'être largement pénalisée. On regardera dans le détail, on en reparlera avec John, mais TSMC perd 5%, après déjà ASML hier, le secteur des puces qui semble être bien laissé de côté de la part des investisseurs. Et puis c'est vrai que si on regarde les taux, il y a une légère décrue, mais on reste tout de même très élevé sur ces rendements obligataires, 4,6% pour le 10 ans américain. Voilà pourquoi le Nasdaq avance très peu ce matin à l'ouverture.
Merci beaucoup Aude. On regardera évidemment les marchés européens et la Bourse de Paris en particulier tout à l'heure à partir de 16h. Vous restez avec nous. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, est également en duplex. John, le chiffre du jour, il est venu de Philadelphie. C'est ce qu'on appelle le Philly Fed, c'est-à-dire l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, très largement au-dessus des attentes. 15,5 au mois d'avril, il était attendu seulement à 1,5. Alors d'accord, ça ne concerne que la région de Philadelphie, mais a priori, c'est un signal précurseur d'une accélération de l'activité économique.
Ouais, vous avez tout à fait raison, Stéphane, et c'est très important parce que le Philly Fed est suivi de très très près par les économistes parce qu'il est considéré comme étant une région, eh bien, qui représente globalement les États-Unis. On voit, vous l'avez dit, qu'on est à un niveau de 15,5, c'est le niveau le plus élevé depuis 2 ans. Et si on regarde, si on gratte un peu sur les chiffres, on voit qu'on a l'activité manufacturière qui a continué de se développer. Vous avez l'activité générale aussi, les nouvelles commandes, donc c'est sur le futur. Et les expéditions qui sont tous en hausse. Et, indication très importante aussi, on voit que l'indice des prix continue à suggérer une augmentation générale des prix. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis sur le Philly Fed. On a une croissance qui tient et qui s'accélère, et de l'autre côté, une inflation aussi qui progresse. Donc c'est une bonne chose pour la croissance, mais de l'autre côté, un peu plus d'interrogations sur l'inflation et surtout ce que va faire la Fed.
Oui, justement, sur l'inflation, John, on a la composante prix payé qui est passée de 3,7 à 23. Ça, j'imagine, c'est une confirmation du retour de l'inflation aux États-Unis.
Exactement. Alors, ce qu'on savait, Stéphane, c'est qu'en début d'année, on avait des bases de comparaison qui étaient assez faibles, je dirais. C'est pour ça qu'on a une progression 2 mois de suite de l'inflation du CPI américain. Mais sur les données, et notamment les données que vous venez de citer, on a l'impression que, effectivement, l'inflation pourrait repartir. Alors, évidemment, pas retrouver les hauts niveaux de début 2023, mais revenir sur des niveaux qui sont considérés comme étant dangereux parce que ces niveaux empêcheraient la Réserve fédérale américaine de couper ses taux rapidement.
Justement, on en débattra tout à l'heure à partir de 17h avant de laisser la parole à Aude. Je vous pose la question à vous, John. Est-ce que dans ces conditions, une baisse des taux aux États-Unis est-elle encore envisageable ?
Alors écoutez, si on regarde, Stéphane, le consensus, on est à 40 points de base de baisse contre 160 en début d'année. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu moins de 2 baisses de taux. Il est évident que d'un côté, si on regarde l'inflation qui redémarre, eh bien très logiquement, la Réserve fédérale américaine ne devrait pas baisser ses taux en juin et attendre septembre. Mais le problème qu'on a ici, c'est qu'on est en période d'élection présidentielle. aux États-Unis, comme on en parle tous les jours, et il serait un peu malvenu de baisser les taux le mois précédent les élections aux États-Unis. Donc c'est un coup extrêmement difficile à voir, et évidemment c'est toutes les prochaines données économiques qui vont nous guider sur le nombre de baisses qu'on va avoir, mais évidemment à ce niveau-là on peut pas parier sur plus de 2 baisses de taux en 2024.
Et je le disais, c'est vraiment le sujet du jour, on y reviendra avec nos différents invités et on en parlera dans le club tout à l'heure à partir de 17h. Aude Kersulek, toujours en direct d'Euronext, il y a un mot, Aude, qui est en train de faire le buzz, c'est le mot take-off. Pourquoi ?
Ouais, vous savez, on aime beaucoup les métaphores en bourse. Il y a celle des animaux avec les boules et les bears. Et il y a celle en lien avec l'avion, prendre l'avion. Alors, on connaît le hard landing, le soft landing, le no landing, quand on parle de la trajectoire de croissance américaine. Là, vous mettez donc ce nouveau mot sur le tapis. John, c'est le take-off, le décollage. Bah, ça sonne plutôt positif, dit comme ça.
Oui, ça sonne positif, mais c'est surtout le décollage ou le redécollage des taux. Personne n'a parlé d'une augmentation des taux, bien évidemment, parce que lorsqu'on parle de no landing, normalement les taux devraient rester élevés, mais qu'est-ce qui s'est passé? En début de semaine, on a eu Bank of America qui nous a dit que potentiellement l'inflation aux États-Unis pourrait être à 4,8% en novembre prochain pendant les élections. Et Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, a dit au début du mois d'avril que potentiellement les taux d'intérêt américains pourraient remonter jusqu'à 8% cette année. Donc on imagine ici, personne ne parle de hausse des taux, mais que potentiellement, face à l'accélération de l'inflation, on va bientôt parier sur des hausses de taux plus qu'une stabilisation des marchés. Et c'est ce qui s'appelle le take-off. Rappelez-vous bien de ce nom, le take-off. On va en parler tout au long de ces prochains mois.
15h39, on passe au journal de l'élection américaine. Nous sommes à 200 jours de cette élection aux États-Unis. Et on va parler du procès de Donald Trump. Il est bien plus important qu'il n'y paraît, non pas parce qu'il risque une peine de prison, mais aussi, John, à cause de l'opinion publique. Quelles sont les dernières informations concernant ce procès, et notamment en ce qui concerne la nomination des jurés à ce procès?
C'est une question très très importante parce que on sait que les Américains sont très sensibles, non pas à l'emprisonnement de Trump, ce qui ne sera pas le cas, mais au fait qu'il soit condamné ou non. Et on a eu des sondages qui sont sortis, on en a parlé d'ailleurs ensemble, qui mettaient en avant le fait que si Donald Trump devait être condamné dans ce procès pénal, eh bien les gens voteraient moins pour lui. Donc on a eu la nomination de ces jurés. Dans ces jurés, on a, tenez-vous bien, une infirmière, un enseignant, deux avocats, un vendeur et un grand-père qui figurent parmi les premiers jurés. Et ce procès, bah, tenez-vous bien, il pourrait durer 2 mois et ces jurés vont être convoqués pour 4 jours minimum par semaine pendant 2 mois pour venir au procès de Donald Trump. Je vous rappelle quand même que Donald Trump a tenté à plusieurs reprises de déplacer l'affaire hors de Manhattan parce qu'il considère que Manhattan est contre Trump, c'est lui qui le dit, pas moi, et que on est dans une situation où les jurés qui ont été pour l'instant nommés, comme je disais avant, ne sont pas du goût de Donald Trump. Donc on va suivre cette affaire qui vient de commencer, il faut le rappeler, lundi. C'est la première fois qu'un président américain est au pénal aux États-Unis.
On a une indication sur l'orientation politique de ces jurés ou c'est une info qui n'a pas été communiquée ?
Non, c'est une info qui n'a pas été communiquée et surtout il a été demandé aux habitants et aux jurés de Manhattan qui avaient reçu la convocation d'être justes et impartiaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On imagine bien qu'ils devraient être justes et impartiaux, mais on ne leur a pas demandé s'ils étaient plutôt de droite ou de gauche, c'est-à-dire démocrates ou républicains. Donc c'est un peu compliqué de savoir, mais il est évident que tous ces jurés ont des tendances politiques marquées aux États-Unis, surtout à Manhattan. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de démocrates que républicains.
On passe à l'actualité entreprise avec vous, Aude. Encore de bonnes nouvelles dans le secteur aérien. On va continuer de filer la métaphore.
Oui, on parlait de décollage, c'est vrai, à l'instant. Vous nous parlez de voyage, John. Alaska Airlines prévoit un essor de la demande de voyage. Alors, le titre prend en ce moment 4,7%. Mais pourquoi l'Alaska, John? Est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique? Bon, c'est dit comme une boutade, mais après tout...
Écoutez, non, pas tellement, Aude. Il faut rappeler qu'Alaska Airlines est quand même l'avion, le Boeing, hein, la compagnie qui a perdu une cabine en plein vol. Ce qu'il faut noter, c'est que pour les avions d'Alaska Airlines, ils ont été immobilisés pendant 2 semaines. Ça leur a quand même coûté 162 millions de dollars. Mais les bénéfices aujourd'hui sont supérieurs aux attentes. Et comme on le disait hier, vous avez une très forte augmentation de transport qui a permis d'anticiper une forte saison estivale. Et je vous rappelle quand même hier, Aude, que United Airlines a clôturé avec le même message à plus 17% hier soir aux États-Unis.
Toujours au chapitre des résultats, Blackstone, qui est la plus grande société de capital investissement, a publié un bénéfice trimestriel en progression de 1%.
Oui, tout à fait. Vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais il faut rappeler une chose, c'est que on a eu une croissance des bénéfices qui sont liés aux commissions qui a quand même compensé partiellement. On a eu une baisse des revenus puisqu'il y a eu pas mal de cessations d'actifs. Donc, c'est des très bons résultats pour Blackstone qui sont salués actuellement sur le marché.
Aude, vous le disiez en démarrant cette demi-heure, on a eu des résultats dans les semi-conducteurs, le numéro 1 mondial, TSMC.
Oui, TSMC qui a battu les attentes en termes de revenus et de profits. Et pourtant, son action se négocie en large baisse, hein, moins 6%. On se souvient, John, d'ASML hier, qui avait fait à peu près de mêmes annonces, hein, c'est-à-dire très bonne sur ce qui s'était passé sur les premiers mois. Mais là, on perd 10% sur ASML. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le secteur des puces ?
Ben, vous l'avez dit, Aude, on a un résultat, un bénéfice de plus de 9%. C'est largement au-dessus des attentes du consensus, mais c'est le message. C'est le message qui est beaucoup plus prudent, puisque TSMC nous dit que l'industrie des semi-conducteurs se redresse plus doucement que prévu, alors qu'on a une très forte demande pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que la demande pour les semi-conducteurs, et surtout les semi-conducteurs embarqués dans les véhicules, eh bien, est de plus en plus faible. Et ceci ne compense pas la forte hausse sur l'intelligence, sur la demande sur l'intelligence artificielle. Donc le message est assez prudent sur le secteur des semi-conducteurs au global, et ça explique aussi ce qu'on a eu hier sur ASML, comme vous l'avez dit, Aude.
Puis on reste dans les semi-conducteurs, John, avec Micron Technologies qui va recevoir une grosse subvention du gouvernement américain.
6 milliards de subventions du gouvernement américain pour Micron afin de financer un projet d'usine de semi-conducteurs aux États-Unis. Et la nouvelle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'en début de semaine, c'était Samsung. On en avait parlé, Stéphane, ensemble. Samsung avait reçu une subvention du gouvernement américain de plus de 14 milliards de dollars. Et avant ça, c'était Intel. Donc on voit qu'il y a une véritable course aux semi-conducteurs, et surtout pour produire aux États-Unis et non plus en Asie. On sait que ça prendra du temps, mais les prémices de semi-conducteurs américains sont bien là.
Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci également à Aude Kersulec depuis Euronext. Aude, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour la séance en cours à la Bourse de Paris.